Quoi de neuf doc, le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Quoi de neuf doc, votre émission pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la santé. Un extrait du titre « Family Portrait » de Pink, le récit d'une petite fille qui supplie sa maman d'arranger les choses dans une famille où semble régner la violence. À l'époque, le clip qui faisait apparaître une petite fille face caméra m'avait bien marqué. D'ailleurs, je me suis rendu compte que c'est pas facile d'illustrer les violences que peuvent subir les enfants par des images sans trop choquer ou sans trop être dans le pathos. Vous l'aurez compris, notre sujet du jour est un sujet sensible dans plusieurs domaines, y compris dans celui de la santé. Dialane Ogier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste et vous avez rédigé votre thèse sur la détection par les médecins des violences faites aux enfants. Tout d'abord, deux chiffres qui sont très parlants. Environ 80% des enfants ne voient qu'un médecin généraliste pour leur suivi. Et seulement 1% des signalements concernant des enfants maltraités sont faits par ces médecins. C'est vrai que spontanément, on pense plutôt à l'école ou aux structures sociales comme relais de ce genre d'informations. Du coup, pourquoi vous avez choisi de travailler sur cette question de la maltraitance des enfants vue par les médecins?
Alors, mais j'ai choisi de faire ma thèse sur ce sujet parce que c'est un sujet vraiment de santé publique et pour le coup, c'est un vrai sujet de médecine générale, donc ça colle tout à fait à mon métier. Effectivement, on voit beaucoup d'enfants et les enfants qui sont suivis par les médecins généralistes depuis avant même qu'ils naissent finalement, puisqu'on suit aussi les femmes enceintes et pour toute leur enfance, et ils deviennent nos patients adultes ensuite. Donc on les voit de façon régulière.
Quand on parle de maltraitance, ça veut dire quoi en termes de santé?
Ça veut dire énormément de choses. C'est un sujet qui est très très intriqué, très complexe, très pluriel finalement, parce que ça va de petites choses du quotidien à des plus grandes maltraitances, on va dire. Et surtout, ça a une rémanence dans la vie entière des personnes. On voit bien que un enfant qui n'a pas pu se développer dans un environnement sécur, avec de la sécurité affective, etc., va être un adulte qui va parfois, évidemment, heureusement, ce n'est pas une fatalité, pas toujours, mais qui va parfois dysfonctionner dans sa sécurité affective aussi et dans ses liens sociaux quand il sera adulte. Et ça, c'est parce que je me suis rendu compte de ça en côtoyant des adultes qui souffraient que je me suis dit que j'allais travailler sur ce sujet-là des enfants pour travailler en amont, en fait, et parce que ça a une rémanence sur toute la vie en réalité. Si on s'occupe des enfants, la société de demain, elle ira mieux, je pense.
Et ça, c'est quelque chose qui est enseigné en études de médecine. Il y a un volet, un cycle, une journée sur la détection de ces violences.
Oui, oui, il y a des cours en deuxième cycle, donc, c'est-à-dire quand on est externe entre la troisième et la sixième année, qui est insuffisant, mais en réalité, c'est compliqué quand on fait un tronc commun où on est tous les étudiants en médecine de toutes les futures spécialités ensemble, de développer chaque sujet de chaque élément de la médecine, de chaque thème, de chaque organe, de chaque... Voilà, c'est compliqué de tout faire. Et donc, l'enseignement en second cycle est évidemment insuffisant pour être très compétent sur ce sujet, ce qui est à la fois normal et pas normal. En tout cas, moi, je milite pour que ce soit plus. Mais c'est pour ça que c'est important ensuite, quand on est dans une spécialité qui touche les enfants, et il y en a beaucoup, de se redévelopper là-dessus, de se reformer, de faire des FMC, comme je fais de temps en temps, des soirées de formation médicale continue où j'explique mes résultats de thèse, etc. C'est important de continuer à se former sur ce sujet parce que c'est tellement complexe comme sujet et c'est tellement invisible, en fait, la plupart du temps, qu'on n'est spontanément pas très efficace, et aussi parce qu'il y a des freins émotionnelle et psychologique de notre part qui sont immenses et qu'il faut accepter et il faut lutter contre et faire avec à la fois.
On va en reparler justement dans votre thèse, vous expliquez que les médecins généralistes, on le rappelle, 80% des enfants ne voient qu'un médecin généraliste et vous expliquez dans votre thèse que ces médecins ne sont pas forcément formés pour détecter les maltraitances. Alors vous venez de le dire, peut-être que c'est dû à la formation en école de médecine qui n'est peut-être pas assez développée. Est-ce qu'il y aurait d'autres freins?
Il y en a plein. Il y en a plein. Déjà, le fait du sujet même, c'est un frein. Parce que c'est un sujet qui est indicible. Et spontanément, quand on fait médecine, c'est qu'on veut prendre soin des gens, des patients et des gens en général. Et donc, imaginer que ça existe, c'est déjà difficile en soi. Donc déjà, on a un frein de se dire, oui, bah, ouais, peut-être bien, mais non, mais c'est pas possible. Je dois me tromper, ou voilà, des choses comme ça. Déjà, on a nos freins, nos propres freins à nous. Après, il y a sur le fait du sujet même, c'est que la plupart du temps, c'est invisible à l'œil nu. C'est-à-dire un enfant qui arrive avec des hématomes, ça, c'est le cas sur 100. Et donc, en fait, il y a les 99 autres qui disent rien, qui n'ont aucune trace physique, qui subissent, par exemple, des violences psychologiques qui sont totalement invisibles à l'œil nu. Si on a des adultes autour d'eux qui vont les humilier, les rabaisser, les insulter au quotidien, personne ne le sait.
Justement, quand on est dans un désert médical comme le nôtre, l'un, c'est pas évident déjà d'avoir un médecin. Quand on en a un, c'est pas évident de passer du temps avec lui. Comment on peut détecter ces violences sur des enfants où physiquement, il n'y a rien qui apparaît?
Ben ça, c'est là où la formation et la reformation continue prend tout son sens, parce qu'on a des petits indices. Alors, c'est des faisceaux d'indices. C'est un sujet qui est complexe. Encore une fois, les enfants, par principe, protègent les adultes qu'ils aiment, et donc souvent leurs parents, ou ça peut être d'autres adultes qui sont défaillants, mais donc par principe, ils vont rien dire. Mais on a quand même le corps de l'enfant qui parle, par exemple. On a des symptômes d'angoisse, on a des symptômes de pipi au lit, on a des symptômes de refaire caca dans sa culotte. Enfin voilà, on a des choses qui sont... Puis il y en a plein d'autres qui ne signent pas le diagnostic. S'il y avait un truc qui signait le diagnostic, on n'aurait pas de problème de dépistage. Mais tout un faisceau d'arguments, la connaissance de la famille et tout, qui vont pouvoir nous dire que peut-être à un moment donné, il y a un danger pour l'enfant. Et la loi, pour le coup, l'évolution de la loi est bien faite là-dessus. C'est-à-dire qu'avant, on avait le seul choix de faire ou non un signalement. C'était il y a longtemps, mais... Et donc, ça voulait dire que presque, il fallait que le médecin fasse sa propre enquête pour être sûr de ne pas aller dans le mur et d'éventuellement pas exposer une famille dans laquelle, finalement, il n'y aurait pas de problème de danger pour l'enfant à toute la procédure juridique qui va être en face. Et maintenant, on a la possibilité de faire une sorte de signalement plutôt social, c'est-à-dire le côté juridique n'entre pas du tout en ligne de compte. Les écrits qu'on fera ne seront pas du tout au procureur de la République, mais au département, à la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes, et donc c'est une information préoccupante. Mmh. Et l'information préoccupante, elle est hyper intéressante parce qu'elle ne préjuge pas de la véracité de ce qu'on dit. C'est-à-dire, c'est pas nous les juges, c'est pas nous qui faisons l'enquête, et c'est pas nous qui devons dire si oui ou non, on s'est trompé ou pas. À partir du moment où on est préoccupé, ça porte bien son nom, où on voit qu'on est en situation familiale complexe, avec des parents parfois qui sont eux-mêmes malades pour plein de raisons, des enfants qui sont pas bien, qui ratent l'école, enfin, tout ce qu'on peut imaginer d'un enfant qui n'est pas bien physiquement et moralement, on peut se dire que là, il y a un danger pour l'enfant potentiel, qu'on est en tout cas préoccupé, pas que pour l'enfant, mais pour le fonctionnement familial global, et on fait cette information préoccupante. Donc c'est important parce que, un, ça nous demande pas de faire le juge et de ne pas mettre les pieds dans le plat si on n'est pas sûr. Ça lance
pas forcément une grosse procédure derrière.
Tout à fait. Et surtout, ça inclut la famille. C'est-à-dire que l'information préoccupante, on va venir dire aux parents. Des fois, ils ne sont pas contents, mais finalement, pour en faire l'expérience de temps en temps, c'est plutôt bien pris, bizarrement. Spontanément, on a envie de se dire, oulala, on va dire aux parents qu'on fait une information préoccupante, on va se prendre une grande claque. Et en fait, non, je trouve que quand on sait ce que c'est, quand on l'explique bien, et quand on est franc envers les parents, en fait, ça joue plutôt de dire, voilà, moi, je suis préoccupée, je vois que peut-être il y a des difficultés. Et en fait, ce qui est mis en face de l'information préoccupante, c'est du social, c'est des TISF, donc des travailleuses familiales, c'est des assistantes sociales, c'est des infirmières puéricultrices, c'est toute l'équipe, en fait, de la protection de l'enfance de l'Ain. Et eux, ils ont le même objectif que nous, en fait. Leur objectif, c'est pas de placer les gosses, c'est de travailler avec les familles pour que ça se passe mieux. Et pour faire de l'aide éducative, pour apporter des solutions sociales, financières, éducatives, d'étayage culturel. Et ça, c'est ça, en fait, la majorité des situations. C'est pas le parent ou l'adulte pervers qui va martyriser les enfants. Malheureusement, ça existe, mais c'est pas la majorité des enfants en danger, en fait. La majorité des enfants en danger, ça va être des familles qui vont être en difficulté, qui vont être parfois négligents par carence, je sais pas comment l'expliquer, mais par...
Par une vie compliquée, par des facteurs sociaux. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, les situations des Français ne sont pas forcément très, très simples et elles risquent de ne pas s'améliorer. Voilà. Et du coup, pour ces médecins, donc une fois qu'on a compris cette procédure, il y a pourtant encore très peu de signalements. On en a un petit peu parlé, mais est-ce qu'il y a aussi des freins qui seraient en lien avec les rapports qu'on peut entretenir avec les familles ? Souvent, quand on est médecin généraliste et surtout dans nos zones rurales, on s'occupe de toute la famille, parfois même des oncles, des tantes, des grands-parents.
Bien sûr.
Est-ce que ça joue ?
Bien sûr. Dans ma thèse, c'est dans les entretiens que j'ai fait avec les 12 médecins généralistes que j'ai interrogés, bien sûr, ça joue. Le côté rural, il est à la fois très agréable pour un médecin généraliste qui est installé en village parce qu'il connaît tout le monde, mais à la fois compliqué. Parce que finalement, si on vient mettre, entre guillemets, les pieds dans le plat à un moment donné, tout le monde va le savoir. Hein, et c'est compliqué de garder sa place de confiance. Et en même temps, ça dépend comment c'est présenté. L'information préoccupante, elle nous aide vraiment là-dedans pour ouvrir le dialogue avec la famille. Et puis, au-delà de ça, de façon plus pragmatique et plus ferme, c'est une obligation légale. Le signalement d'un mineur en danger, c'est pas une option, en fait. Il est arrivé très rarement, mais il est arrivé que des médecins soient mis en cause. Pas en France, peut-être d'ailleurs, j'en sais rien, mais c'est arrivé que des médecins soient mis en cause parce que par défaut de signalement, alors que la situation était évidemment en grand danger. Quoi.
Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer ou mettre en place pour que ces maltraitants soient à la fois mieux détectés et mieux signalés ?
De la formation. Et puis de l'information, pour que tous les médecins sachent qu'il y a des informations préoccupantes qui sont possibles. Et puis qui mettent des visages en face. Moi, après ma thèse, en fait, j'ai fait plusieurs soirées. J'ai été invitée à plusieurs soirées à être conférencière, à expliquer mon sujet de thèse et mes résultats. Et j'y suis toujours allée avec ma directrice de thèse, elle a changé de poste, mais qui était la directrice de la CRIP, la médecin référente de la CRIP, parce que pour les médecins, c'est important. Nos patients, on les aime. Nos familles, on les aime. Et donc, c'est important de savoir où on les envoie. Et si on a l'impression qu'à partir du moment où on fait une information préoccupante, ce qu'il y a après, c'est une sorte de trou noir qu'on ne connaît pas, parce que finalement, les équipes de protection de l'enfance, on ne les a jamais vues, eh bien, c'est impossible. Parce que c'est trop impersonnel, et on se demande qu'est-ce qui va se passer, qui va s'en occuper, et avec quelles intentions. Et le fait de faire du réseau comme ça, et de faire découvrir aux médecins généralistes du département, ma directrice de thèse qui fait ça, qui est la médecin de la protection de l'enfance, eh bien, en fait, ils se rendent compte qu'elle est médecin comme nous, et qu'elle a le même objectif de protection des enfants que nous, et que l'équipe a le même objectif que nous aussi. Donc ça, c'est important. La formation, oui. Les formations continuent. Et puis aussi, les médecins étaient très demandeurs d'outils pragmatiques. Parce que, comme vous dites, il manque de temps. On est tout seul potentiellement dans son cabinet avec une situation. Puis on passe au patient suivant. Et puis on ne sait pas quoi faire avec. Donc, du coup, j'avais fait pareil après ma thèse. Et puis, édité dans le journal du Conseil de l'Ordre, qui est trimestriel, je crois, une fiche mémo. Que les médecins pouvaient directement découper du journal, en fait, où j'avais résumé la protection de l'enfance selon les deux procédures, on va dire, ce qui est information préoccupante, ce qui est social, avec les numéros le fax, le mail, qui appelait, à quel numéro pour avoir des informations, les papiers vierges pour remplir d'informations préoccupantes, enfin tout, et le signalement, le numéro du procureur de la République, le mail, le fax, etc. Parce que les médecins, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de rapidité, de savoir où ils appellent, comment, pourquoi, où ils peuvent avoir de l'aide rapidement. Parce que y a de plus en plus de travail et donc, effectivement, c'est pas simple. Mais si on est bien formé, on a déjà plus le frein de se dire que ça n'existe pas. Enfin, pas que ça n'existe pas, mais aucun médecin pense ça.
De passer
mais...
à côté de l'information, en tout cas.
Et puis, si on est mieux formé, du coup, on va être plus attentif aux petites subtilités, parce que c'est ça, c'est de la subtilité, c'est pas les gros sabots et les bleus, quoi. La plupart du temps, c'est vraiment de la subtilité, de bien connaître les enfants, etc. Donc,
Et plus globalement, parce qu'il n'y a pas que les médecins qui sont concernés, comment est-ce qu'on peut détecter, nous, auditeurs, auditrices, qui ne sont pas compétents dans le domaine de la santé, comment est-ce qu'on pourrait détecter ces signaux et qu'est-ce qu'on en fait ?
Alors, les signaux, ça se sent en fait. C'est tellement complexe qu'on peut passer 3 heures rien qu'à faire un cours sur tous les facteurs de risque et les petits signes de, dans cette famille-là, ça dysfonctionne à un moment donné pour 1000 raisons. Donc ça, on ne peut pas en faire la liste. Mais par contre, si on a l'impression en tant que citoyen qu'on a un enfant qui souffre, alors évidemment, il faut qu'il y ait quand même un peu d'étayage sur... On ne va pas appeler pour la protection de l'enfance à chaque fois qu'il y a un enfant qui se fait engueuler, ce n'est pas ça. Mais si on a vraiment l'impression à l'école ou dans son immeuble d'entendre des choses, de ne pas être sûr, d'un enfant qui est pas bien, qui est sur le palier, enfin je ne sais pas, plein de trucs. Il y a le 119, donc ça c'est le numéro de protection de l'enfance en danger, et ça tout le monde peut appeler. Les enfants peuvent appeler, un citoyen peut appeler en disant je ne sais pas du tout si je suis dans le vrai, mais ma sensation c'est celle-ci. Et dans le département de l'Ain, le choix a été fait de répondre et de faire enquête pour chaque appel. Sauf appel complètement incongru, mais chacun, c'est même pas chaque citoyen a le droit d'appeler, c'est chaque citoyen a le devoir d'appeler si vraiment il pense que là il se passe un truc.
Dialane Ogier, merci. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste. On se retrouve le mois prochain. On ira faire un tour du côté des urgences du centre hospitalier de Fléria à Bourg avec le docteur Sébastien Roux. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Quoi de neuf, doc?
Le 4e vendredi du mois sur Radio B.